Vivre FM podcast.
Bonjour Carole.
Bonjour Benjamin.
Carole, vous êtes notre spécialiste association solidaire et aujourd'hui vous recevez une association qui a du chien.
Et oui, nous recevons l'association L'École de Chiens Guides de Paris pour aveugles et malvoyants. Alors, une association qui est représentée par trois personnes aujourd'hui. Marie-Thérèse Verlot, vous êtes maîtresse d'un chien guide. On vous présente dans une seconde. Thérèse Lefebvre, vous êtes famille d'accueil d'un chien guide également. Et puis, vous êtes chargée de communication, Isabelle Jolie.
Donc, ce n'était pas Marie-Thérèse, mais Marie-Béatrice. Mais ce n'est pas grave, elle s'est reconnue. Hein. Il n'y a aucun problème. Et puis, vous qui nous écoutez, si vous voulez poser des questions à tout ce beau monde qui représente l'École des chiens guides de Paris, n'hésitez pas. Hein. 01 56 88 40 20.
Les spécialistes Association Solidaire
sur Vivre FM
avec Carole Clémence.
Et donc, nous sommes en compagnie de trois personnes qui connaissent bien l'association L'École de Chiens Guides de Paris pour aveugles et malvoyants. Ces trois personnes sont ici autour de la table. Nous avons trois chiens guides dans cette salle, trois chiens guides avec Nanouk. Nanouk qui fait partie, de l'école. Il est tenu en laisse par Thérèse, Thérèse famille d'accueil. Bonjour Thérèse.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous parlerez bien près du micro,
près
même
du
si Nanouk est très, très vivace.
Vous allez, vous allez essayer d'être plus cabot hein, que Nanouk.
Vous allez voir, je m'en sors pas mal.
D'accord.
Et puis, à côté de vous, Isabelle Jolie. Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle, bien devant le micro également.
Vous êtes chargée de communication de l'école de chiens guides. Alors, vous n'êtes pas accompagnée d'un chien, mais vous gérez, vous encadrez tous les chiens de l'école.
Voilà.
Et on fête les 30 ans de l'association cette année.
Tout à fait. Cette année, ce sera 30 ans que notre association existe.
On en parle dans quelques secondes. On parlera d'abord de l'actualité de la semaine prochaine, la 6e semaine nationale du chien guide, qui commence dimanche d'ailleurs. Mais c'est la semaine prochaine jusqu'à dimanche prochain. Et puis, nous sommes aussi avec Marie-Béatrice Verlot. Bonjour Marie-Béatrice.
Bonjour Marie-Béatrice.
Bonjour. Marie-Béatrice.
Vous avez un nom compliqué, visiblement.
Ou un peu long. Je vous l'accorde.
Et vous êtes maîtresse de Fonda.
Tout à fait.
Qui est à vos pieds.
À mes pieds, qui a 7 ans.
Alors, pardonnez-moi de vous interrompre, Carole, mais preuve que ces chiens sont bien éduqués, c'est que 3 chiens dans le studio, ça fait beaucoup moins de bruit que 2 enfants. Hein.
Ou même qu'un enfant.
Et même qu'un seul enfant, oui.
Ils sont assis au pied de leur maîtresse. C'est vrai qu'ils sont assez calmes. Même le petit Nanouk, la petite Nanouk qui bouge beaucoup, elle a 7 mois, c'est ça?
Elle a 7 mois, oui.
Elle a 7 mois.
Dans 2 jours.
Alors, votre famille d'accueil, on va expliquer ce que c'est tout à l'heure. En détail, une famille d'accueil, c'est une personne qui reçoit le chien à l'âge de 2 mois et qui l'éduque pour pouvoir, par la suite, être entraîné, être dressé à l'école et puis, par la suite, être...
Éduqué. Pas dressé. Hein.
On parle d'éducation.
Éducation, hein, oui.
Éducation, c'est différent de dressage.
Oui, complètement.
Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi?
Est-ce qu'on peut résumer ça par le principe de l'éducation positive, c'est-à-dire... On ne contraint pas un chien à faire quelque chose. Peut-être que les éducateurs qui m'entendront diront « Madame Lefebvre, famille d'accueil, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas parce que je ne suis pas une professionnelle. » Mais le principe de l'éducation, pour pas mal de chiens en général, mais pour le chien guide d'aveugle, c'est l'amener à faire des actions positives et le récompenser pour ça. Donc le dressage contraint est puni. L'éducation, c'est plutôt encourager pour avoir un chien épanoui et qui aime travailler et qui aime se mettre au service de son maître.
Et ça fonctionne mieux que le dressage, que les contraintes, finalement. Et Isabelle Jolie, vous êtes spécialiste, vous êtes chargée de communication
oui
de l'école.
Mais... Oui et non, parce qu'au quotidien, bien sûr, on voit tous les chiens travailler avec leurs éducateurs.
Bien devant le micro, Isabelle.
Au quotidien, donc on voit tous les chiens travailler avec leurs éducateurs. Bien évidemment, l'éducation positive, c'est... incomparable, on ne songe même pas une seconde à la contrainte. C'est pour avoir un chien bien dans sa tête, qui aime travailler et qui soit en vraie dualité avec son maître, il faut des chiens efficaces, positifs.
Et puis, ces chiens, une fois qu'ils sont passés par votre école, ils sont confiés à des maîtres malvoyants ou non-voyants, comme vous, Marie-Béatrice. Alors, votre chien s'appelle Fonda, c'est une chienne d'ailleurs.
Tout à fait.
Elle a 7 ans.
J'ai eu la grande chance d'en être bénéficiaire. Donc, on nous les remet à l'âge de 2 ans, hein, puisque c'est 2 ans d'éducation.
Enfin, l'âge du chien. Hein.
Voilà, ils ont 2 ans.
Maître, hein.
Non, voilà. Et voilà, parce qu'ils sont, éduqués pendant 2 ans. Et donc, ça fait 5 ans qu'on forme un super binôme. Et voilà, c'est mes yeux à 4 pattes.
Et la semaine prochaine, vous participez peut-être toutes les trois à la semaine du chien guide d'aveugles et de malvoyants qui aura lieu du 17, donc de dimanche, à partir de dimanche, jusqu'au dimanche suivant, le 24.
Alors, tout le monde participe, c'est l'occasion de mettre en lumière ces chiens, qui sont évidemment, comme dit Marie-Béatrice, les yeux de leur maître, et de mettre en lumière le magnifique travail accompli par les écoles de chiens guides.
C'est bien de mettre en lumière des chiens d'aveugles.
Ben oui.
Oui. Dont la vôtre, l'école de chiens guides de Paris. Mais il y en a beaucoup d'autres en France ?
Alors, cette semaine, sixième semaine nationale du chien guide, elle est possible, elle est mise en place par la Fédération, qui compte environ une dizaine d'écoles de chiens guides dans toute la France, dont celle de Paris.
Ces écoles de chiens guides, est-ce qu'elles utilisent les mêmes méthodes ? Est-ce qu'elles sont reconnues par les pouvoirs publics ? Comment ça se passe ? Il faut un gage de sérieux ?
Il y a une charte déontologique, d'une part, dans l'éducation du chien, qui est mise en place, qui est énorme, donc cette éducation positive dont parlait Thérèse, et puis aussi dans la structure même administrative de l'association. L'association ne vit que de notre association de Paris, comme les autres, ne vivent que de générosité privée, mais il n'y a pas le droit de démarchage, etc. etc. Il n'y a pas de subvention publique automatique.
Et puis, on le rappelle, vous travaillez pour offrir, enfin, vous confiez. Les chiens guides ne sont pas payés par les maîtres.
C'est ça, ce qui est évident pour nous, donc j'oublie toujours de le rappeler, bien sûr. Le chien guide est remis gratuitement aux déficients visuels.
Est-ce qu'il arrive que des écoles, des particuliers, éduquent des chiens guides et au contraire de vous, les vendent ? Ça arrive, ça, en France ou à l'étranger ?
Sûrement, ça doit arriver. Ça ne fait pas partie de notre environnement à nous, mais bien sûr, sûrement.
On peut l'imaginer. Marie-Béatrice, vous avez entendu parler de choses comme ça ?
Il y a diverses petites écoles de chiens guides, mais voilà, comme dit Isabelle Joly, voilà, il y a vraiment, on travaille selon une charte, voilà. De toute façon, ce sont des écoles, les écoles fédérées sont des écoles labellisées, qui travaillent, voilà, selon la même charte, avec la même déontologie, et voilà. Donc, ce sont vraiment ces écoles reconnues, et nos chiens sont vraiment reconnus par les pouvoirs publics. Alors après, les autres écoles, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça n'est peut-être pas tout à fait la même qualité, on va dire, en tout cas en termes d'éducation, puisque nos chiens sont parfaitement éduqués. Hein, puisque l'éducation aussi, il y a une différence entre le dressage, c'est que le dressage, les chiens obéissent, et obéissent uniquement nos chiens à nous. Ils savent prendre des décisions, c'est-à-dire ils savent analyser des situations et prendre des décisions pour nous mettre en toute sécurité.
Ils ne sont pas passifs, ils sont actifs.
Ils sont tout à fait actifs, voilà. Donc c'est vraiment la différence entre le dressage et l'éducation. On permet aux chiens aussi, par cette éducation positive, de rester dans un apprentissage qu'il aime, et puis voilà, et apprendre aussi à prendre des décisions, à faire des choix. C'est pas évident, hein. Ce sont des chiens
c'est
extrêmement...
C'est difficile, effectivement. Oui, il faut des chiens intelligents et puis des chiens heureux pour travailler tous les jours.
C'est
avec
ça. Oui, il faut que ça soit très positif. Voilà, c'est...
Alors, cette semaine prochaine, la sixième semaine nationale du chien guide, qu'allez-vous faire, vous, au sein de l'école, pour la promouvoir ?
Alors, essentiellement, nous parler à toute la France comme on est en train de le faire actuellement. Voilà, diffuser la bonne parole, je dirais. Et puis, surtout à l'École de Paris, comme beaucoup d'autres écoles, ça se termine par le côté festif de la journée porte ouverte de l'école, où il y a des tas d'animations, et bien évidemment, où on invite tout le monde à venir le 24 septembre.
Le 24 septembre, donc dimanche, voilà. Dimanche, ça conclura la sixième semaine nationale du chien guide. On continue d'en parler, Benjamin.
Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association Solidaire. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
Aujourd'hui, nous sommes avec les responsables de l'école de chien guide de Paris. Et il y a trois femmes avec nous. Isabelle Joly, qui est la chargée de communication de l'école de chien guide de Paris pour aveugles et malvoyants. Et il y a également Marie-Béatrice Verlo qui, elle, est bénéficiaire de l'un de ses chiens. Et puis, nous avons également Thérèse Lefebvre, et qui, elle, est famille d'accueil.
Exactement. Et nous parlions de l'actualité du 24 septembre, dimanche 24 septembre, puisque l'école de chiens guides de Paris pour aveugles et malvoyants reçoit, c'est une porte ouverte, reçoit le public qui souhaite venir voir comment vous travaillez, qui souhaite connaître un petit peu cette école. Vous avez donc une journée spéciale porte ouverte de 10h de 10h.
10h, 18h, c'est la seule dans l'année.
C'est la seule dans l'année, donc il faut en profiter.
Une fois par an, l'école ouvre ses portes et reçoit, parce que d'habitude c'est fermé puisque nous y travaillons, donc si les portes étaient ouvertes, ce serait
évidemment, ce serait un peu le bazar.
Voilà, ouais. Donc il y aura des tas de choses.
Par exemple, un atelier de sensibilisation, est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Ça, c'est assez particulier.
Alors, on va essayer de faire plusieurs choses. D'une part, que le public présent voit ce que peut ressentir, comment on compense quand on est aveugle ou malvoyant, donc déficient visuel en général, en faisant des parcours, ce qu'on appelle nous la vie dans le flou. Ça, c'est le côté malvoyant. Comment on se déplace, comment on compense quand sous bandeau, on met le public sous bandeau dans une pièce dans le noir, et puis ben, on voit comment on reconnaît l'argent, comment on touche, comment on sent, etc. Tout un, quelles sont les émotions que l'on ressent.
Oui.
Et puis également, bien sûr, il y aura une démonstration de chien guide, ce que ça fait nos chiens.
Voilà. Et puis d'autres choses, il y a une tombola, vous n'en avez pas parlé, mais il y a
une tombola énorme avec des gros lots magnifiques cette année. Le Marriott, notre partenaire de cette année, nous offre des, je crois, un brunch au Marriott Arc de Triomphe, une nuit au Marriott Côtière de Boulogne.
Je vais faire une toute petite, parenthèse à l'adresse de Carole. Je suis forcé de le faire en direct. Carole, si vous pouvez veiller à ce que tous les casques soient baissés, parce qu'on a un Larsen fou. Et donc, ça fait du bruit et donc on entend mal les personnes qui s'expriment. Merci. Voilà, alors parlez-nous.
Voilà,
de,
Benjamin.
Merci,
donc,
c'est gentil.
On reprend sur cette journée du 24. Donc, tombola avec des gros lots.
Ouais.
Et puis, il y a des massages canins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un massage canin?
Un massage canin, on apprend. Alors, il faut savoir que les seuls chiens qui sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte de l'école ce jour-là sont les chiens qui sont pas extérieur à l'école. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir avec son animal de compagnie parce qu'il y aurait beaucoup trop de chiens et ce serait difficile à gérer. Donc, seuls les chiens, nos chiens, si vous voulez, de la communauté, sont acceptés. Mais on montrera sur un chien quels sont les bienfaits, comment on peut bien s'occuper de son chien.
Il y a des parties du chien
que... Je ne saurais pas vous le dire. Je ne les connais pas encore.
Donc, c'est à découvrir dimanche 24. Et puis, on pourra aussi découvrir le rôle des différents intervenants dans le processus d'éducation du chien, donc famille d'accueil, l'éducation à l'école, et puis comment un maître chien, un bénéficiaire, travaille avec son chien, puisqu'on parle de travail dans ce cas-là. Marie et Marie-Béatrice, on parle de travail lorsque vous êtes avec votre chien et que vous déplacez?
Alors oui, on est au travail forcément, puisque le chien est équipé d'un harnais, et pour lui, c'est vraiment son outil de travail. Enfin, c'est comme ça que nous, on le sent, on travaille au ressenti, évidemment. Hein. Donc, on sent la posture du chien à travers le harnais qui donc, est autour du poitrail du chien. Donc, on dit forcément, puis le chien a très bien compris que lorsqu'on met ce harnais, qu'on va travailler. Mais bon...
Est-ce que pour lui, c'est un jeu ou...
Alors, pour lui, le chien a été éduqué dans le plaisir, comme l'expliquait Thérèse. Donc, voilà, avec des récompenses. Donc, pour lui, ça fait plaisir. De toute façon, ce sont des chiens qui ont été éduqués de façon tout à fait positive. Et ils aiment faire plaisir à leur maître. Ça n'est pas une contrainte parce que, j'étais cet été en vacances. Nous étions, tout à fait... Moi, j'étais avec mon époux. Et c'est vrai que mon chien était au repos. Et bien, malgré tout, lors de promenades, par exemple, où nous étions en partie à la montagne, et bien, le chien venait de temps en temps. J'avais bien évidemment toujours le harnais avec moi, autour du bras. Et le chien venait me voir de temps en temps, c'était assez impressionnant, en me disant « Est-ce que tu as besoin de moi ?» Et ça, c'était très très touchant.
En vous faisant comprendre, préciser, voilà. Parce que s'il y a des auditeurs qui arrivent, ils disent « En me disant, on leur apprend à parler. »
C'est un langage, tout à fait, on se comprend tellement, on est complètement en fusion tous les deux. Enfin, je dis comme ça.
Non, vous êtes toujours d'accord pour dire qu'il ne leur manque que la parole.
Voilà, on se comprend tout à fait, donc elle se frottait à moi. Alors qu'elle aurait pu évidemment aller courir et vivre sa vie dans la montagne, eh bien, elle venait lors de petits passages comme ça qu'on rencontrait, de petits ruisseaux qu'il fallait enjamber. Voilà, parce que j'avais mon époux qui me guidait, et évidemment, on avait un système de guidage. Et alors, le chien est content de travailler, en fait.
L'époux avec le harnais également, comment ça se passe?
Oui, j'ai failli lui mettre la laisse.
Je voulais rajouter une chose. Les chiens guides, parce qu'il y a un certificat, hein, les chiens passent un certificat pour savoir s'ils sont aptes à guider ou pas. Et il y a des chiens qui sont réformés, qui ne passent pas, parce qu'ils n'aiment pas travailler. Donc, ce n'est pas la peine de... Et ça, c'est tout le travail de l'éducateur ensuite à l'école, après le rôle de la famille d'accueil. Les chiens qui n'aiment pas travailler, ce n'est pas la peine d'aller contre leur nature, je dirais.
Bien sûr, ils feront de mauvais chiens guides.
Voilà. Voilà, donc les chiens qui sont chiens guides sont des chiens qui aiment travailler qui seront en possibilité de faire un binôme avec leur maître.
Comme quoi, ils sont bien éduqués, parce que même nous qui n'aimons pas travailler, on a des difficultés à le dire, on a des difficultés à le faire savoir au patron, par exemple. Hein.
Non.
Est-ce que votre chienne Fonda, elle parfois rechigne un petit peu à venir prendre son harnais?
Oui, ça peut arriver, parce que nos chiens sont... Alors moi, je suis absolument fascinée, je ne sais pas... Et c'est vrai que on a, par exemple, dans une semaine, le chien sait ce qu'on... Enfin, bon, on a une vie plutôt régulière, qui est structurée, bon, tel jour... Il y a des endroits où le chien n'aime pas trop aller. Et c'est vrai, par exemple, moi, c'est particulier, c'est les courses. Parce que moi, j'ai une chienne qui est très, très, très tonique, très speed, qui aime l'extérieur, qui aime découvrir. Et c'est vrai que dans un magasin, bon, on rentre dans le magasin et elle est... Voilà. Après, elle est complètement... Bon, elle est posée, elle est statique, et ça lui plaît pas trop. Puis ça dépend des magasins. Ça dépend. C'est vrai que si on va dans une boulangerie, ça va. Mais si on va dans une grande surface...
Et puis c'est vrai qu'il y a la musique, ça doit être...
Oui, il y a du monde, de la musique. Donc là, il s'ennuie. Alors, bon,
peut-être des odeurs qui sont pas...
Mais si, ça peut arriver qu'un chien ne veuille pas aller. Hein. Moi, j'ai des amis où le chien, on les appelle. Enfin, moi, j'ai une collègue notamment qui est non-voyante. Quand elle appelle son chien, il y a certains jours, le chien reste au fond de son panier. Il ne veut pas bouger.
D'accord.
Donc, elle est obligée de... Voilà, qu'il n'a pas envie. Ça arrive.
Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là?
Oh bien, elle prend sa canne.
Avec sa canne. Et le chien reste
Et le chien reste à la maison. Voilà, c'est-à-dire que on respecte tout à fait ça.
Vous parliez travail tout à l'heure, pardonnez-moi, on dit toute peine mérite salaire. On récompense systématiquement le chien à partir du moment où il a travaillé?
Alors, en éducation, certainement,
oui,
bien évidemment, ça c'est évident.
Tout à fait.
Je pense que quand il est avec son maître, je ne pense pas Marie-Béatrice...
Non, parce qu'il deviendrait des... Enfin, bon, la récompense étant une friandise, vous imaginez la taille du chien si on devait récompenser.
Ça viendrait un tonneau, quoi.
Voilà, c'est
ça. Par contre, il y a une chose que je voudrais ajouter qui est essentielle, c'est comme les humains, tout travail mérite repos. C'est-à-dire qu'on sait bien que les chiens travaillent au quotidien et font tout un tas de choses... que ça demande une concentration énorme. Et à l'école de chiens guides de Paris, on a un peu imposé une chose, c'est les détentes obligatoires pour les chiens. C'est-à-dire qu'au minimum une fois par semaine, mais vraiment minimum, voire plus, nous organisons des détentes où les chiens sont lâchés.
C'est-à-dire on va continuer avec vous Isabelle Jolie, avec vous Marie-Béatrice et avec vous Thérèse, j'oublie toujours votre nom, Thérèse, famille d'accueil. On continue Benjamin après une pause.
Vivre FM, c'est vous, les spécialistes, association solidaire, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
L'école de chiens guides de Paris d'aveugles et de malvoyants est avec nous, est au centre des préoccupations de notre émission aujourd'hui, représentée par Marie-Béatrice Verlot, qui est bénéficiaire de l'un de ses chiens, par Isabelle Jolie, qui elle est chargée de communication de l'école de chiens guides de Paris, et par également Thérèse Lefebvre, qui elle est famille d'accueil.
Exactement Benjamin, Isabelle Jolie, vous êtes chargée de communication de cette école de chiens guides. Vous avez autour de vous, Marie-Béatrice, maîtresse de Fonda, donc un chien qui se trouve à vos pieds, Marie-Béatrice, Nanook. Non, c'est Fonda, qui est une chienne de 7 ans.
Vous allez faire des histoires de famille, vous, Carole, vous allez voir.
Qui a son beau diplôme de chien guide, certifié donc.
Et puis juste en face, il y a Thérèse Lefebvre qui est venue avec Nanook. Alors vous êtes famille d'accueil, Thérèse.
Oui.
Nanook est aussi à vos pieds.
Oui.
Et elle a 7 mois.
Elle a 7 mois.
Exactement. Et elle se tient très calme. Elle est couchée. Elle ne bouge plus.
Elle ne bouge plus. Vous avez vu tout à l'heure, c'était un petit peu plus mouvementé. Le travail
quand
de la famille.
Quand elle est arrivée, elle était.
Voilà, très excitée. Le travail, c'est pas un travail, mais la mission de la famille d'accueil, c'est pendant une petite année. Entre 3 mois, le moment où l'école confie un chiot à la famille d'accueil et l'âge d'un an, il y a 9 mois où la mission de la famille d'accueil, c'est justement d'aider ce chiot à grandir dans sa tête et dans ses pattes et à pouvoir gérer ses émotions. Alors tout à l'heure, on est arrivé, c'était un petit peu, ça ressemblait plus au cirque, mais Nanook, toute jeune, a découvert le chien de Dominique et le chien de Marie-Béatrice, et donc c'était vraiment la fête. En même temps, elle sait se poser. Mais gérer les émotions, c'est une des choses à laquelle on doit arriver. On a une petite année pour le faire.
Voilà. Et comment lui apprenez-vous justement tout à l'heure lorsqu'elle a découvert les autres chiens, elle était très excitée. Comment lui apprend-on à gérer son émotion et à se calmer?
Bah, ça s'appelle de l'obéissance, c'est-à-dire écouter quand sa maîtresse dit ça suffit, voilà, maintenant couchez. Elle doit obéir. Évidemment, ça vient pas tout de suite. Il y a un petit peu de temps, voilà. Mais au fur et à mesure, le chien est tout à fait conscient de quand il déborde, mais sait écouter. Et avec le temps, il prend le temps d'écouter la famille d'accueil. Et il faut, là aussi, pour obtenir un bon résultat, donner beaucoup d'amour à ses chiens. C'est-à-dire, on peut demander beaucoup, mais il faut surtout beaucoup de caresses, beaucoup de papouilles, beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et ce dont parlait Isabelle Joly tout à l'heure, les détentes, qui c'est un terme, un jargon un petit peu particulier dans le monde des associations de chiens guides. Une détente, c'est pas je me relaxe tranquille dans un transat. C'est pour un chien, au contraire, je pète un câble. Ça veut dire on lâche la laisse, on enlève la laisse, et là, vas-y, cours pendant une heure ou deux à renifler les bonnes odeurs, à faire le fou. Et ça, c'est indispensable. Donc, un chiot, on a énormément besoin. Pour obtenir beaucoup, il faut aussi lui donner beaucoup. Mais le retour est gagnant, hein, vraiment.
Ce sont des chiens très affectueux. Donc, Nanouk est très affectueuse. Est-ce qu'il faut être à temps plein avec elle?
Ah oui, c'est forcément à temps plein. Et en fait, c'est le principe de base de la famille d'accueil. On ne peut être famille d'accueil qu'à condition de pouvoir garder son chien tout le temps avec soi. On l'amène au travail, au cinéma, faire les courses. Il n'y a que le saut en parachute que je n'ai pas fait.
Ah, ça, c'est
mais,
c'est dommage. Voilà, elle le regrette sûrement.
Mais voilà, un concert au Bus Palladium, des enchères à Drouot, tout y est passé. Voilà. Et c'est pas fini. Plus d'expérience aura le chien de situations nouvelles, plus il sera ouvert et sera capable de s'adapter à sa future vie de chien guide.
Alors, donc, vous nous expliquez que le chien, vous l'emmenez partout, mais est-ce que la législation le permet? Est-ce qu'on peut emmener un chien guide qui n'est pas d'ailleurs encore guide, il est en train d'être formé? Est-ce qu'on peut l'emmener dans un hôpital, dans un restaurant, dans des lieux privés?
Alors, pour l'hôpital, il y a quand même quelques restrictions. On peut l'emmener, mais pas dans tous les services, bien évidemment. C'est normal pour des raisons d'hygiène. Mais la législation permet aux chiens guides d'aveugles de rentrer partout. Vraiment partout, cinéma, piscine, enfin j'ai la
piscine.
Oui, piscine.
C'est-à-dire qu'il
il prend son bain.
Il reste à l'accueil.
Voilà.
Et les chiens.
Et depuis 2014, il y a eu un décret qui donne les mêmes droits à l'élève chien guide qu'au chien guide certifié, ce qui est normal.
Ce qui permet de l'entraîner aux futures situations.
Exactement. C'est pas possible d'entraîner, de rôder un chien si on peut pas rentrer tranquillement dans un supermarché. Alors, les choses bougent petit à petit. Elles bougent. Les gens commencent un peu à connaître, mais régulièrement. La mission de la famille d'accueil, pour moi, elle est là aussi. C'est quand on a un service de sécurité qui vous accueille avec un sourire pas vraiment souriant à l'entrée d'un magasin, y aller vraiment...
Alors là, il faut expliquer.
Expliquer en étant super gentil, en montrant que ce chien-là est vraiment merveilleux, en sortant éventuellement, s'il le faut, une petite carte avec le logo République française, puisqu'on a une carte qui identifie le chien et une carte qui identifie la famille d'accueil. Et les barrières...
Sautent.
Dans 99,9% des... Ça avance lentement mais sûrement.
Marie-Béatrice, vous avez eu des problèmes pour entrer dans certains lieux? Vous avez eu des refus catégoriques?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis très admirative et très... Vraiment, je remercie les familles d'accueil parce que c'est vraiment elles qui sont confrontées à l'accessibilité en premier lieu avec leurs petits chiots. Mais c'est vrai que, bon, il arrive encore que dans certains endroits, on ait des refus. Et on nous avance. Alors, c'est souvent dans des lieux, dans les commerces de bouche, on va dire, plutôt en province. Bon, on a fait encore l'expérience cet été où nous étions en Haute-Savoie, où on s'est vu refuser l'accès à une enseigne. Bon, voilà, on a travaillé là-dessus, où les gens, les responsables, ne connaissaient pas du tout le chien guide. Ça peut arriver dans les stations de ski aussi, où ils ne voient pas de chien, évidemment. Voilà, donc ça peut arriver.
Parce que lorsque vous faites du ski, vous emmenez...
Alors, je vais l'été, moi, dans les stations de ski, donc c'est pour ça.
Ah, enfin, d'accord.
Voilà. Évidemment, promener son chien à la neige, hein, c'est possible, j'en connais qui le font, ou qui laissent le chien à la maison. Mais voilà, l'été, évidemment, on peut se promener avec notre chien à la montagne. Donc, c'est vrai que dans ces petits commerces, ils connaissent pas trop le chien.
Mais j'imagine que tout le monde ne sait pas qu'un chien guide, déjà à l'identifier, comment savoir.
C'est ça, voilà. Voilà, ils connaissent pas du tout le chien guide. Hein. On a vraiment trouvé des petites stations.
Le chien guide, il a un harnais.
Il a un harnais.
Et le chiot, et le futur chiot, il a un dossard.
Oui, voilà. Et les chiens guides ont un dossard très identifiable. Et ce qui fait que les gens s'arrêtent en se disant « qu'est-ce que c'est que ce chien ?» Il y a de la curiosité positive. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça veut dire « attention, ce chien-là, c'est d'abord un chien exceptionnel, forcément.
Exceptionnel. »
Et avec un... Voilà, avec des traitements, j'allais dire pas de faveur, parce que rentrer dans un magasin avec un chien, avec un chiot pour faire ses courses, c'est beaucoup moins commode que sans chiot, bien évidemment. Mais voilà, ce dossard-là signale que ce chien-là a le droit d'entrer.
Je rajoute une petite chose sur l'accessibilité qui est importante. C'est vrai que souvent les vigiles des magasins, les grandes surfaces ou des magasins de bouche, nous disent vous n'avez pas besoin de votre chien pour faire vos courses.
Mais si.
Alors laissez-le dehors ou à l'entrée avec les chariots. Bon, alors ça ne peut pas se faire puisque c'est un chien d'assistance. Ce sont des chiens qui nous accompagnent partout et quand on fait nos courses, effectivement, ce n'est pas le chien qui va aller nous dire que la boîte de petits pois elle est sur l'étage, enfin sur le. Voilà. Mais néanmoins, on déambule dans le magasin.
Hein. Et puis, on refuse votre chien à l'intérieur du magasin, mais on ne vous propose pas d'assistance.
Si, c'est arrivé où on s'est précipité sur moi avec un petit panier ou un chariot en me disant, on va laisser le chien à l'entrée. Alors, on leur dit, écoutez, est-ce que vous aurez idée de dire à quelqu'un qui arrive en fauteuil roulant de laisser son fauteuil roulant à l'entrée.
Voilà.
Alors on leur dit, non, nous, on a vraiment besoin de notre chien pour se déplacer. Et ce sont vraiment nos yeux. Donc, on ne laisse pas nos yeux à l'entrée du magasin. Il est toujours avec nous, notre chien, et constamment. C'est un chien d'assistance. On comprend un peu mieux, mais c'est quelquefois compliqué. Mais bon, sinon, on a beaucoup travaillé là-dessus. Les associations travaillent beaucoup.
Et vous continuez, puisque la semaine prochaine, c'est la semaine nationale du chien guide et l'ouverture, dimanche 24, de votre école. On continue, Benjamin, on fait une pause.
Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association Solidaire, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
L'école de chiens guides, d'aveugles et de malvoyants de Paris est venue en nombre pour nous expliquer un petit peu l'école, l'éducation des chiens guides, les chiens eux-mêmes, enfin bref, on va tout savoir avec Isabelle Joly qui est chargée de communication de l'école, avec Marie-Béatrice Verlot qui elle est bénéficiaire de l'un de ses chiens guides, avec également Madame Lefebvre. Et donc, j'ai perdu le prénom.
Thérèse,
voilà, décidément, elle n'a pas de chance. Thérèse Lefebvre, qui, elle, est famille d'accueil.
Alors, on parlait hors antenne de certaines difficultés pour être acceptée avec son chien guide. Marie-Béatrice, vous nous expliquiez que certains taxis refusaient la course à cause du chien.
Ils ne sont pas de bon poil.
Tout à fait, oui, ça arrive. Alors, il vaut mieux, quand on commande un taxi, de préciser qu'on a un chien. Voilà, il y a une enseigne de taxi à Paris, ça fonctionne très 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 bien. Voilà, c'est sûr que c'est un peu embêtant quand on est à la gare et qu'on arrive avec notre chien et que nous on sent que le taxi passe quoi, il s'arrête pas.
Vous commandez un taxi
Quand on arrive à la gare, on l'a pas forcément commandé. Quand on commande, il y a pas de souci, ils sont prévenus, ils arrivent. Voilà, il vaut mieux commander. On ne peut pas néanmoins attendre. Enfin moi, je prends jamais un taxi comme ça. On profite dans la rue parce que la plupart du temps, ils ne s'arrêtent pas quand ils nous voient accompagnés d'un chien.
Oui.
Bon, ben là, c'est à nous de travailler. Nos associations doivent aussi travailler avec toutes ces structures pour expliquer que le chien, il est propre. Voilà, nous sommes tenus d'avoir des chiens extrêmement propres. Bon, il y aura un petit peu de poils, évidemment. Mais bon, pourquoi pas dans le coffre On peut aussi les mettre dans le coffre. Pas forcément, ils ne viennent pas sur la banquette, ils sont toujours à nos pieds. Ils sont extrêmement bien éduqués.
Donc il n'y a pas de souci.
Voilà, il n'y a pas de souci. Non.
Mais alors qu'est-ce qu'on vous dit lorsqu'on refuse ?
Alors on dit, il y a eu beaucoup de chauffeurs allergiques, on a constaté comme ça tout à coup une grande. Voilà, il y a beaucoup d'allergies aux poils de chien maintenant dans les taxis. Mais bon, alors on sait à quoi c'est dû, ces allergies. On y travaille et ça se fera, je pense que. Voilà.
Je pense que c'est en général en expliquant.
Voilà.
C'est pas en montrant. Effectivement, il y a des amendes qui peuvent être mises si vraiment ça se passe mal ou si. Bon. Si, mais c'est en expliquant. Et c'est à ça que ça sert.
Mais il y a quand même des gens qui n'aiment pas les chiens, qui en ont peur. Donc là, on ne peut rien faire.
Bah, tout à fait. Donc, bon, dans ce cas, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir affaire à une enseigne connue. Bon, on appelle un central qui, bon, bah, ils vont demander de la disponibilité sur des gens.
On comprend bien.
Voilà, on est à Paris. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour les Parisiens. Je ne sais pas comment ça se passe en province.
Alors, justement, on est à Paris, il y a le métro. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé de la pratique, techniquement, comment vous faites concrètement lorsque vous êtes dans le métro. Bon, vous êtes avec votre chien. Est-ce qu'il vous guide? Vous lui demandez une destination?
Alors, ça, c'est un gros, gros travail. Ben, déjà, les familles d'accueil s'y sont confrontées. Hein. Thérèse doit savoir ça, avec un petit chiot, prendre le métro, parce que ça fait partie aussi du travail, de l'apprentissage. Ensuite, c'est à l'école des chiens guides, où il y a vraiment, pendant leur année d'apprentissage, hein, où ils apprennent le guidage, ben, il y a tout un tas de lieux qui travaillent. Hein. Ils vont avec des éducateurs dans le métro, dans les gares. Voilà, ça, c'est fait déjà avec l'éducateur. Et puis, lors de la remise des chiens, hein, il y a tout un processus quand on nous demande un chien. Et lorsqu'on nous le donne, ça s'appelle la remise. Donc, lors de cette remise, eh bien, on va travailler à nouveau avec ce chien qu'on a nouvellement présenté, là. On va, dans le métro, travailler les escaliers, les tickets. Donc, on dit le ticket, le chien nous montre où se trouve la machine en mettant ses pattes, la rampe, enfin, voilà. Et puis,
la porte du métro.
Un certain nombre de mots, une cinquantaine d'ordres environ. Et ben, ça fait tout ça, ça fait partie. Donc, c'est vraiment de l'entraînement, mais le chien comprend tout à fait un environnement, comme dans le métro, comme dans une gare. Il y a vraiment, pour nous, il n'y a plus qu'à...
Une fois que vous êtes arrivé devant la porte, il repère l'ouverture.
Voilà, tout à fait.
Il vous guide sur l'ouverture, vous montez avec lui.
Oui.
Et là...
Il nous donne le siège. Il peut nous donner le siège s'il y a un siège, parce que bon, on les connaît, ça.
Il cherche port, un siège vide.
Voilà, libre.
Il cherche un siège vide en posant sa tête sur un siège vide. Voilà, une déficience visuelle n'a plus qu'à longer la tête avec la main.
Il n'y a jamais de chien farceur, il n'y a pas des chiens farceurs. Donc, ils mettent la tête sur les genoux d'une jolie fille, par exemple.
D'un joli monsieur.
Ça peut arriver.
Voilà, donc il y a tout un apprentissage. Et c'est toute une question d'entraînement. Et il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je suis assez époustouflée. Mon chien, quand je suis sur moi, j'emprunte une certaine ligne, connaît l'arrêt qui demandait... Je ne sais pas si... Alors, effectivement, maintenant, on a des synthèses vocales. C'est vocalisé. Hein, donc, on nous dit la station. Ligne 14, par exemple, quand j'arrive, ça dit les stations. Donc, est-ce que le chien... Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais le chien ne se trompe jamais.
C'est fou.
Donc, même si je suis dans mes pensées ou à écouter quelque chose ou de la musique, tout de suite, le chien fait un mouvement. Donc, j'ai compris que c'était la bonne... Et mon chien ne se trompe jamais. Je ne suis pas la seule, hein. Je ne suis pas la seule comme ça. Le chien, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est tout un travail. Le chien, on suppose qu'il travaille à l'odorat.
Thérèse, vous-même, vous travaillez justement. Vous n'êtes pas éducatrice, mais vous commencez, lorsque le chien est tout petit, à l'initier à ces choses.
Oui, tout à fait. En fait, ce dont parle Marie-Béatrice, nous l'installons. Alors, je tiens surtout à bien préciser que la famille d'accueil n'est pas éducateur. C'est un vrai métier. Mais on installe quelques bases. Pour que le chien soit pas surpris au moment où l'éducateur, quand le chien rentrera en éducation, puisse vraiment travailler ce qu'on appelle le guidage. Donc, les bases et les fondamentaux qui sont inculqués par les familles d'accueil, c'est d'abord, aussi d'avoir un animal de compagnie bien élevé, bien dans ses pattes, mais aussi quelques routines. Il y a des ordres, mais il y a aussi des routines à mettre en place très tôt, parce qu'un chien, un chiot, c'est très malléable dans tous les sens du terme. On peut en faire le pire, en obtenir le pire, voire et aussi le meilleur. Donc, ces routines qui consistent à descendre un escalier, franchir une porte, prendre le métro. C'est évidemment dans des contextes qui peuvent être très très dangereux quand on n'a pas ses yeux. Et donc c'est ça qu'on travaille avec le chien, traverser un passage piéton. Ça se met en place très très tôt. Dès l'âge de 3 mois, le chien, on lui demande de s'asseoir devant un passage piéton. Et au fur et à mesure, on monte un petit peu en difficulté. Mais passage piéton, métro, escalier, c'est vraiment la base de la base.
Et puis la socialisation aussi.
Tout à fait. Le métro, c'est sympa parce que, en fait, un petit chiot, ça se fait marcher dessus en heure de pointe. Donc, ils comprennent aussi que les humains, qu'ils aient leurs yeux ou pas, ils ont quand même tendance à avoir des pieds et des jambes et qu'ils visent pas forcément au bon endroit. Donc, le chien l'apprend au fur et à mesure. Évidemment, ça demande une bonne confiance en l'être humain. Parce que, franchement, moi, je mesurerais 40 cm de haut. J'aurais pas tellement envie de me retrouver dans un full de la place Nation aux heures de pointe.
Donc, ça implique une sélection à la base de chiens, une race particulière peut-être, une race particulièrement gentille, particulièrement intelligente.
Alors, on sait tous effectivement que les labradors font des bons chiens guides parce que ce sont des chiens naturellement proches de l'humain. Donc déjà, à la base, ce ne sont pas des chiens de défense, de garde, etc. Ce sont des chiens qui déjà naturellement sont proches de l'humain et qui en plus qui aiment travailler. Et effectivement, on a, nous, un centre d'élevage dans le 78, à Buc.
Bien devant le micro, Isabelle.
Près de Versailles, à Buc, où on sélectionne déjà pour essayer de faire les meilleurs chiens guides possibles, hein, sur, évidemment, sur plusieurs années.
On peut voir quand ils sont tout petits, si certains ne pourront pas travailler.
Voilà, sont plus aptes que d'autres et vraiment poursuivre et pousser pour avoir les meilleurs chiens guides possibles.
On arrive bientôt au terme de cette émission. On va rappeler l'événement de la semaine prochaine, cette semaine nationale des chiens guides, et puis l'ouverture de l'école, des chiens guides d'aveugles de Paris et de l'Île-de-France.
Le programme est en train de se construire, hein, donc tout, évidemment au fur et à mesure ça bouge, mais toutes les infos sont trouvables sur le site de l'école chienguideparis.fr.
Et puis vous serez présente, Thérèse, vous serez présente sur le stand des familles d'accueil.
Oui, tout à fait.
Pour donner des conseils, pour expliquer qui peut être famille d'accueil.
Voilà, pour enseigner les gens qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que cette mission, en quoi ça consiste. On sera là pour les renseigner, je ne serai pas la seule, on sera assez nombreux.
Qui sera là aussi.
Absolument, voilà. Et je remercie bien tout le monde, parce que pour nous, en tout cas pour moi, en général pour les aveugles et malvoyants, c'est vraiment une autonomie retrouvée, une liberté, une indépendance, ces chiens guides, hein, vraiment.
Il faut rappeler retrouvée. Que vous avez toujours besoin de familles d'accueil, ça c'est important
toujours.
De le dire.
Hein. Oui, tout à fait. Oui.
On a plein de petits nouveaux chiens là, parce qu'on essaie de faire très très fort et très très haut. On a plein de petits nouveaux chiens qui attendent leur famille d'accueil et d'élevage.
Donc venez, venez dimanche 24 de 10h à 18h, c'est aux eaux de Vincennes, à 105 avenue de Saint-Maurice, dans le 12e arrondissement de Paris. Merci à vous trois.
Merci à vous.
Merci à vous.